Volume 6, les œuvres de George Fox, livre Doctrinosi, suit un encouragement pour tous à se confier dans le Seigneur, qui a le souffle de toute l'humanité et leurs âmes dans sa main. Et comment pas même un moineau ne tombera à terre sans la volonté du Père. Par George Fox, le Seigneur Dieu insuffla dans l'homme le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Gênesis 2:7. Job dit, « Dans la main du Seigneur est l'âme de tout être vivant, et le souffle de toute l'humanité. » Job 12:10. « Et sa main n'est-elle pas sa puissance ?» Et encore Job dit, « L'Esprit de Dieu m'a fait, et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. » Job 33:4. Et David dit, « La terre est pleine de la bonté du Seigneur, par la parole du Seigneur les cieux furent faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Psa 33:6. Et David dit, il se confiait dans le Seigneur, et ses temps étaient dans sa main, Psa 31:14-15. Ainsi vous pouvez voir comment toutes choses furent faites par la parole, Jésus-Christ, et par celui qui les fit, à savoir le Seigneur, et le temps de l'homme est dans la main du Seigneur. Et le Seigneur Dieu, celui qui a créé les cieux et les a déployés, celui qui a étendu la terre, et ce qui en sort, il donne le souffle au peuple qui est dessus, et l'esprit à ceux qui y marchent, Isaïe 42:5. Et Job dit, « Dieu recueille à lui l'esprit et le souffle de l'homme. » Job 34:14. Ainsi Dieu, qui donne à l'homme souffle et esprit, c'est lui qui recueille de nouveau à lui son souffle et son esprit, lui qui tient tout dans sa main. Et les pas d'un homme de bien sont affermis par le Seigneur, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu car le Seigneur le soutient de sa main. Psa 37:23-24. Et David dit, « Ô Seigneur, que tes œuvres sont nombreuses. » Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est pleine de tes richesses, les mers grandes et étendues où se meuvent d'innombrables êtres rampants, petits et grands animaux, tous comptent sur toi, afin que tu leur donnes leur nourriture en son temps, tu la leur donnes, ils la recueillent, tu ouvres ta main, et ils sont rassasiés de bien, Psa 104:24-28. Ainsi, ici vous pouvez voir le Seigneur qui a tout créé, comment il prend soin de tous, et leur donne leur nourriture en son temps. Et tous ceux qui gardent leur esprit tourné vers le Seigneur avec son esprit, et qui ainsi le connaissent ainsi que sa main, eux dont le souffle est dans sa main, peuvent dire, « Le Seigneur est ma force, et il est devenu mon salut, et la voix de l'allégresse et du salut est dans la tente des justes » et peuvent dire, « La droite du Seigneur agit vaillamment et est élevée. » Psa 118:14-15. Ainsi, l'espérance de tout homme et de toute femme doit être dans le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, la mer, et toutes choses qui s'y trouvent, et qui garde la vérité à jamais. Et plus loin, David a dit, « Ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans le Fils de l'homme, en qui il n'y a point de salut. Son souffle s'en va, il retourne à la terre, en ce jour même ses pensées périssent. » Psa 146:3-4. C'est pourquoi tous doivent se confier dans le Seigneur, dans la main duquel sont leur souffle et leur vie. Et Salomon, parlant du Seigneur dans Pro 3, de comment, par sa sagesse, le Seigneur a fondé la terre, et par son intelligence a fermé les cieux, a dit, « La longueur des jours est dans sa main droite, et dans sa main gauche sont des richesses pour toujours. Faites donc entrer cette sagesse dans vos cœurs, elle qui crie dans les rues, si vous voulez ses richesses et son plaisir. » Et vous pouvez voir dans Ésaïe comment le Seigneur encourage son peuple, ceux qui sentent qu'ils sont l'ouvrage de la main de Dieu. Il dit, « Afin que vous têtiez et soyez rassasiés des saints de ses consolations, afin que vous en tiriez du lait et que vous vous délectiez de l'abondance de sa, c'est-à-dire de Jérusalem, gloire. Car ainsi dit le Seigneur, voici, j'étendrai la paix vers elle comme un fleuve, et la gloire des nations affluera comme un torrent débordant, alors vous têterez, vous serez portés et bercés sur ses genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, et vous serez consolés dans Jérusalem. Et quand vous verrez cela, vos cœurs se réjouiront, et vos os fleuriront comme l'herbe, et la main du Seigneur sera connue de ses serviteurs. N'est-ce pas la Jérusalem céleste, la mère de tous les vrais chrétiens dans la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament? Or, le souffle de toute l'humanité est dans la main du Seigneur, qui a fait le monde, et toutes choses qui s'y trouvent, voyant qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Lui qui donne souffle et vit à toutes choses, comme le dit l'apôtre, Actes 17:24-28, et qui a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes qui habitent sur la face de la terre, afin qu'avec son souffle et sa vie ils cherchent le Seigneur, le tâtonnent et le trouvent, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre eux, car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes, comme certains poètes païens ont pu le dire. Et maintenant Dieu, qui donne souffle et vit à toute l'humanité, commande à tous les hommes partout de se repentir, afin qu'ils se tournent vers lui, le servent, l'adorent et le louent, lui qui les a créés et prend soin d'eux, tant par ses bénédictions temporelles que spirituelles, il ouvre de sa main, de sa puissance et comble de ses bénédictions. Car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par Jésus-Christ. Or, vous tous qui vous êtes égarés loin de l'Esprit de Dieu, et ainsi loin de Dieu, parmi les sorcières ou les diseurs de bonne aventure qui disent aux gens quand et comment ils mourront, de telles étaient interdites et jugées par le Seigneur dans l'Ancien Testament, et il ne faut pas les suivre ni les écouter. Mais Dieu, qui donne souffle et vie à toute l'humanité, qui tient leur vie et leur souffle dans sa main, ainsi que la durée de leur jour, a dit « Tournez vos regards vers moi, vous tous les bouts de la terre, et soyez sauvés. » Ainsi, avec leur souffle et leur vie, ils doivent regarder vers le Seigneur d'où cela vient et être sauvés. Ainsi celui qui leur donne souffle et vie est le Créateur, et tient leur souffle et leur vie dans sa main, et il est le Sauveur de qui vient tout salut, et ils doivent tourner leur regard vers le Seigneur pour cela, jusqu'aux extrémités de la terre par Jésus-Christ. Et Christ a dit dans son Nouveau Testament, lorsqu'il encourage ses disciples, il leur dit « Craignez Dieu et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent plus rien faire. » Et il dit encore, « Deux moineaux ne se vendent-ils pas pour un sou, et pas un d'entre eux n'est oublié devant Dieu. » Et Matthieu 10, 29-31 dit, « Aucun d'eux ne tombera à terre sans la volonté du Père. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de moineaux, car même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, et devant les anges de Dieu. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux, et devant les anges de Dieu. Or ici vous pouvez voir ce que Christ a dit, qu'un moineau ne tombera pas à terre sans la volonté de Dieu, car pas un d'entre eux n'est oublié de Dieu. De sorte que, ni avec vos fusils ni avec vos filets, vous ne pouvez attraper un moineau sans la volonté de Dieu, car aucun d'eux ne tombera à terre sans le Père qui les a faits. Et donc l'humanité, à savoir l'homme et la femme, qui ont plus de valeur que beaucoup de moineaux, n'est pas oubliée de Dieu, et elle ne tombera pas à terre sans la volonté du Père. Car Christ dit, « Les cheveux de vos têtes sont comptés, à savoir par le Seigneur qui les a faits. Et le Seigneur qui leur donne leur souffle, leur esprit et leur vie, par lesquels ils deviennent des âmes vivantes pour vivre pour lui, lui qui tient aussi leur souffle et leurs âmes dans sa main, oui, de toute l'humanité comme dans Job. Et c'est pourquoi le Dieu vivant éternel doit être craint par les hommes et les femmes tous les jours de leur vie, afin qu'ils discernent les temps et les saisons qui sont dans la main du Père. C'est un discernement au-delà de celui des hypocrites qui regardent la face du ciel pour le beau et le mauvais temps, Matthieu 16:3. Et si les moineaux ne sont pas oubliés de Dieu, et qu'aucun ne tombera à terre sans la volonté du Père, comme il a été dit plus haut, à plus forte raison les hommes et les femmes ont-ils plus de valeur que beaucoup de moineaux pour le Seigneur, qui a compté tous les cheveux de leur tête et leur donne souffle et vie, par lesquels ils deviennent des âmes vivantes, et tient tout le souffle de l'humanité. Dans sa main, sa puissance. Comment l'un d'eux pourrait-il être oublié, puisque les moineaux ne le sont pas, lui qui voit et connaît de son œil qui voit tout, certes aucun d'eux ne tombera à terre sans la volonté du Père, qui tient tout dans sa main, à savoir sa puissance. Et Dieu a établi Christ, son Fils, pour soutenir toute chose, par qui il a fait le monde, qui est le rayonnement de sa gloire et l'empreint de sa substance, et qui soutient toute chose par la parole de sa puissance, Hébreux 3. Ainsi celui par qui toutes choses furent faites est héritier de toutes choses. Et puisqu'il soutient toute chose par la parole de sa puissance, il n'y a ni changement ni chute de quoi que ce soit sans sa volonté et la parole de sa puissance. Et c'est pourquoi la foi de tout homme et de toute femme doit être en Christ, dans le Fils de Dieu, le second Adam, le Seigneur venu du ciel, par qui toutes choses ont été faites. Car Christ a dit aux Juifs, « Vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. Car si vous ne croyez pas que je suis celui que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » John 8:23-24. Or c'est une mauvaise mort que de mourir dans ses péchés, pour ceux qui ne croient pas en Christ, le Fils de Dieu, qui est l'héritier de toutes choses et soutient toutes choses par sa parole et sa puissance, par qui hommes et femmes et toutes choses furent faits. Et ceux qui meurent dans leurs péchés ne croient pas en celui qui les rachèterait du péché, qui écrase la tête du serpent, détruit le diable et ses œuvres, réconcilie en un toute chose avec Dieu, tant celle du ciel que celle de la terre, et est médiateur entre Dieu et l'homme, lui qui est d'en haut et n'est pas du monde. Et ceux qui ne croient pas en Christ, et qui meurent dans leurs péchés, ne peuvent pas s'endormir en Christ lorsqu'ils déposent leur tabernacle terrestre, ni mourir dans le Seigneur. Car heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent, Rêve 13-14. Or Christ vous a enseigné comment croire, et en quoi croire, il a dit, « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de lumière. » Et Jean dans son premier chapitre vous dit ce qu'est cette lumière, lui qui a dit « La lumière est la vie en Christ, la parole par qui toutes choses ont été faites et créées, et qui éclaire tout homme venant dans le monde. » Toute l'humanité étant éclairée par la lumière, qui est la vie en Christ, la parole qui est héritier de toutes choses et soutient toutes choses par sa parole et sa puissance, par qui toutes choses furent faites, vous qui croyez en sa lumière qui est la vie en lui, Lui qui est d'en haut et non de ce monde, vous devenez enfant de la lumière et non du monde, et vous naissez de Dieu, et vous passez de la mort à la vie en Jésus-Christ. Et ainsi vous êtes greffé en lui, votre vie et votre fondement est bâti sur lui, votre rocher, et ainsi Christ votre racine. Ceux-là meurent dans le Seigneur lorsqu'ils déposent leur tabernacle terrestre, ceux-là s'endorment en Jésus, comme l'a dit l'apôtre. Et l'apôtre a dit, « Car nous savons que si notre maison terrestre, cette tente, est détruite, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite de main d'homme, éternelle dans les cieux, 2 Cor 5:1. » Ainsi, les vrais chrétiens en étaient certains, tandis qu'ils étaient dans leur tabernacle terrestre. Car en cela nous gémissons, désirant ardemment être revêtus de notre demeure qui est du ciel, si toutefois, étant revêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, non pas que nous voulions être dépouillés, mais revêtus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Telle devrait être la pensée de tout vrai chrétien. Telle est la pensée de tous les croyants dans la lumière, la vie en Jésus-Christ, par laquelle toutes choses ont été faites et créées, et comme Christ le dit, celui qui croit au Fils de Dieu ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, John 3:26. Car comment pourrait-il voir la vie, s'il ne croit pas à la lumière, qui est la vie en Christ, par qui toutes choses ont été faites et créées? Et c'est pourquoi Christ a dit, « Voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et cette lumière est la vie en Christ, la parole, qui n'est pas du monde. » Et les hommes, aimant les ténèbres plutôt que cette lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises, ils aiment alors les ténèbres plus que la lumière, la vie en Christ, et plus que Christ est Dieu. Et Christ a dit, « Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Ainsi ceux qui font le mal, et haïssent la lumière ne viendront pas à la lumière par laquelle leurs œuvres sont manifestées et reprises, et donc ils ne viendront pas à la lumière, qui est la vie en Christ, et cette lumière est leur condamnation, eux qui font le mal, la haïssent et ne viennent pas à elle pour que leurs mauvaises œuvres soient manifestées et reprises par elle, comme il a été dit plus haut. Ainsi ceux qui haïssent la lumière, et ne veulent pas que leurs mauvaises œuvres soient reprises, et qui aime les ténèbres plus que la lumière, aime le diable, la puissance des ténèbres, plus que Dieu et Christ, qui vient détruire le diable et ses œuvres, et écraser la tête du serpent. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Or cette lumière céleste et divine, qui est la vie en Christ, la parole, qui est d'en haut, est la lumière par laquelle tous les hommes voient en qui leurs œuvres ont été, et sont, opérées, de sorte que Christ pouvait très bien dire, « Si vous ne croyez pas que je suis celui que je suis le Fils de Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Car comment ceux qui ne croient pas à la lumière, la vie en Christ, pourraient-ils mourir dans le Seigneur, ou s'endormir en Jésus-Christ? Comment pourraient-ils mourir autrement que dans leurs péchés, comme Christ l'a dit, et être condamnés, et la colère de Dieu demeurer sur eux? Et ceux qui croient en la lumière, qui est la vie en Christ, sont greffés en lui et ont la vie éternelle. Ce sont ceux qui passent de la mort à la vie, qui vainquent le monde et ne viendront pas en condamnation. Car Christ a dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Car en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, remarquez, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, John 5:24-25. » Et ceux qui ne veulent pas entendre, mais aiment les ténèbres plutôt que la lumière, et ne viennent pas à la lumière, ni ne croient en la lumière afin de devenir enfants de la lumière, comment pourraient-ils ne pas mourir dans leurs péchés et périr dans leurs vaines paroles et leurs corruptions? Et le Seigneur a dit dans Ézéchiel, « Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, Ès 18:33 encore, je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu, détournez-vous donc de vos voies et vivez. » Or les méchants meurent dans leur méchanceté, eux qui se sont éloignés de l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, et ainsi de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur Dieu voudrait qu'ils se tournent de nouveau, par son Esprit, vers celui qui les a faits et leur donne souffle et vie, afin qu'ils ne meurent pas dans leur péché. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont les enfants du Seigneur, ceux-là meurent dans le Seigneur et s'endorment en Jésus. En eux Dieu, qui est Esprit, prend plaisir en son Esprit, avec ceux qui vivent et marchent dans son Esprit et meurent dans le Seigneur. Mais il ne prend aucun plaisir en ceux qui haïssent la lumière, la vie en Christ qu'il a envoyé pour les éclairer, et qui se rebellent contre son esprit, et ainsi contre Dieu qui le leur a donné. Ceux-là meurent dans leurs péchés et périssent dans leur opposition et leur dispute. En eux Dieu qui est esprit, ne prend aucun plaisir. Ceux qui se rebellent contre son esprit se rebellent contre lui, car son plaisir est avec eux tandis qu'ils vivent et marchent dans son esprit, sa lumière, sa vérité et sa grâce. Concernant la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'est pas venu dans le monde avec la pompe et la gloire du monde, et il n'est pas sorti du monde avec la pompe et la gloire du monde. Il est dit, lorsque Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, Luc 2, 4, parce qu'il était de la lignée de David, pour être recensé avec Marie sa femme fiancée, qui était enceinte, et il arriva que, pendant qu'ils étaient là à savoir à Bethléem, les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers qui demeuraient dans les champs, veillant la nuit sur leurs troupeaux, et l'ange du Seigneur leur apparut. Et leur dit, « Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est Christ le Seigneur, et ceci vous servira de signe, vous trouverez le petit enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. Ainsi vous ne lisez pas ici que Marie, une serait-ce qu'une sage-femme, et si elle n'en eut pas, elle avait la même puissance, le même Saint-Esprit qui vint sur elle, et la même puissance du Très-Haut qui la couvrit de son ombre était capable de l'aider à enfanter son premier-né, qui est appelé le Fils de Dieu. Et si Christ, comme vous le dites, est né à Noël, et que Marie l'a emmailloté et couché dans une mangeoire, c'était un lieu froid, et une période froide de l'année, vous ne lisez pas que Marie eut ne serait-ce qu'un feu. Et encore, lorsque Christ fut crucifié au temps de la Pâque, que vous appelez Pâques Iste, ce qui est bien après Noël, il faisait froid, car Pierre se réchauffait près du feu lorsque les grands prêtres interrogeaient Christ. Or ici vous voyez le Fils de Dieu, et le Seigneur de gloire, quel accueil il reçut à sa naissance parmi ceux qui étaient dans la pompe du monde. Celui qui disait qu'il venait d'en haut, son berceau était une mangeoire. Vous savez qu'une mangeoire est dans une étable, où l'on nourrit ses chevaux. Et qui furent les visiteurs de Marie et de Christ, sinon les bergers du pays, qui veillaient la nuit sur leurs troupeaux, il n'est point question de scribes, de grands prêtres ni de pharisiens. Voyez donc quel accueil le Seigneur de vie trouva en venant dans le monde, sans la pompe du monde, emmailloté, une mangeoire au lieu d'un berceau. Les orgueilleux et les hautains pouvaient dire, « Cet endroit est bien assez bon, il n'y avait pas de place à l'intérieur pour la femme d'un charpentier et son fils, les hôteliers ne trouvèrent pas de place pour Christ, le Sauveur et Marie. Et que pouvaient présenter les pauvres bergers du pays à celui pour qui ils avaient veillé toute la nuit sur les brebis ? Mais Dieu fit de tels hommes des instruments pour venir visiter Christ, le Seigneur et Sauveur, oui, et le proclamer au loin. Et les Juifs ne dirent-ils pas d'une manière méprisante, « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Matthieu 13, 55. Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et dans Marc, les Juifs ne se moquèrent-ils pas de lui en disant, « N'est-ce pas le charpentier le fils de Marie ?» Marc 6, 3. Ainsi ils appelaient Christ le charpentier, mais ils ne savaient pas qu'il devait rebâtir, par sa puissance et son esprit, la maison déchue d'Adam. Car l'apôtre Pierre dit, « Vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et 1 Pé 2.5 et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, celui qui a tout construit, c'est Dieu, Hébreux 3.4. » Et encore, « Car lui, Abraham, attendait la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur, Hébreux 11.10. » Et l'apôtre Paul dit, parlant de Dieu et de Christ, « Après cela je reviendrai, et je rebâtirai la tente de David qui est tombée, j'en relèverai les ruines, et je la redresserai, Actes 15.16. » Et qui est ce constructeur sinon Jésus-Christ avec sa puissance et son esprit ? Encore, et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de vous édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés, Actes 20, 32. Et le Seigneur parla de Christ par le prophète Ésaïe et dit, « Est-ce trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël ? Je t'établis aussi comme lumière des nations, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Isaïe 46, 6. Encore, et qui est celui qui rebâtira les lieux dévastés, relèvera les fondements de nombreuses générations, et est appelé et réparateur des brèches, restaurateur des chemins pour qu'on y habite. Isaïe 58, 12. Et quand le diable tenta Christ et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu 4, 6. Mais Christ dit au diable, « Retire-toi, Satan. » Il semble qu'il lui montra la gloire du monde, qu'il aurait donné à Christ s'il s'était prosterné et avait adoré le diable, en qui il n'y a pas de vérité. Mais Christ dit, « Le diable a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » John 8, 44. Ainsi il n'était pas convenable que Christ, la vérité, se courbe devant celui en qui il n'y a pas de vérité et l'adore. Or, qu'est-ce que la gloire du monde ? Jean a dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 John 2, 15-17. Or, vous voyez ici ce qui est du monde et quelle est sa gloire, celle du diable qui a vaincu Adam et Ève par ses mensonges, en leur disant qu'ils seraient comme des dieux s'ils mangeaient ce que Dieu avait interdit. Il s'attaqua à Christ, qui est la vérité, mais, comme Christ le dit, il ne trouva aucune vérité en lui. Or la gloire du monde, qui est les convoitises de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, avec les pompes et vanités du monde qui ne sont pas de Dieu le Père, mais du diable, qui l'avait engendré dans les royaumes du monde et qui en était la gloire, pour ceux qui avaient désobéi à Dieu, cette gloire du monde, le diable l'aurait donnée à Christ, qui est la vie et la vérité, s'il s'était prosterné et l'avait adoré, à savoir le diable, en qui il n'y a pas de vérité. Mais Christ, la vérité, écrase la tête du serpent et détruit le diable et ses œuvres. Et Christ a établi un culte dans le Saint-Esprit de Dieu et dans la vérité, dont le diable est exclu, car il n'y a pas de vérité en lui, comme Christ l'a dit. Ainsi ceux qui adorent Dieu en son esprit et en sa vérité adorent dans ce dont le diable est exclu et qui n'est pas en lui, il ne peut pas non plus y entrer. Et par conséquent, ce qui est du diable, qui est hors de la vérité, la gloire du monde que le diable disait qu'il donnerait à Christ s'il l'adorait, c'est ce qui n'est pas du Père, mais de lui-même, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie qui passe. Car Dieu Tout-Puissant a créé toutes choses, la terre appartient au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme, et il donne l'accroissement. Ainsi la gloire de toutes les créatures et la gloire de toute la création appartiennent au Seigneur, et c'est lui qui les embellit. Car le diable ne pouvait pas donner à Christ la gloire d'un chardon, la gloire d'une ortie, non, pas même la gloire d'une mauvaise herbe, car tout cela appartient au Seigneur, avec la terre et tout ce qu'elle renferme, et la gloire de toute sa création est au Seigneur, qui est Dieu au ciel et sur la terre, et qui doit être servi et adoré au-dessus de tout. Et Christ a dit, « Car je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un de ses lits, Luc 12, 27-28. » Ainsi c'est Dieu qui revêt les lits de gloire, qui surpasse celle de Salomon dans toute sa gloire. Et Jésus-Christ, qui est plus grand que Salomon, l'a dit, lui par qui toutes choses ont été faites et créées, qui est plus grand que Salomon, et dont la gloire surpasse toute la gloire des créatures dans la création, qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa substance, soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, Hébreux 3 par qui toutes choses ont été faites, lui qui est glorifié avec le Père de la même gloire qu'il avait avec lui avant que le monde fût, et avant que les créatures fussent faites et leur gloire. Ainsi ici vous voyez la gloire de Christ, la gloire de Salomon, et la gloire du lit revêtu, qui dépassait toute la gloire de Salomon, car le lit était revêtu par le Seigneur. Mais la gloire de Christ dépasse la gloire du lit et la gloire de toute la création, comme il a été dit plus haut. Et de même, ici vous pouvez voir la gloire des royaumes du monde, que le diable aurait donné à Christ, qu'il avait engendré chez les filles d'Adam et Ève, qui désobéirent à Dieu, qu'il aurait donné à Christ si celui-ci s'était prosterné et l'avait adoré, cette pompe et cette gloire du monde sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, qui ne viennent pas de Dieu le Père qui a envoyé Christ. C'est pourquoi Christ n'est pas venu dans le monde avec aucune des pompes ni gloires, et il n'en a voulu aucune lorsque le diable les lui a offertes, car il est venu pour détruire et écraser sa tête, et il a rendu témoignage contre le monde que leurs œuvres étaient mauvaises, et il n'était donc pas disposé à recevoir ce qui ne venait pas de son Père ni aucune des œuvres du diable, puisqu'il en a témoigné contre, mais du Dieu de ce monde qui gît dans le mal, et de ses œuvres que Christ est venu détruire. Et ainsi il n'était pas disposé à prendre ce qu'il était venu détruire et qui ne venait pas de son Père. Et ses disciples non plus ne doivent pas recevoir ce qui ne vient pas du Père, de peur d'adorer le diable et de s'éloigner du Saint-Esprit et de la vérité de Dieu, et d'aimer ce qui tiendra l'amour du Père hors d'eux. Et ceux qui marchent dans la vérité marchent en Jésus-Christ. Or, après que le Seigneur Jésus eut traversé toutes ses tentations, et toutes les insultes et mauvaises paroles des Juifs, prêtres, scribes et pharisiens, et même après sa prédication et sa manifestation comme Fils de Dieu par ses signes et ses miracles, et lorsque, par leur langue méchante, demandèrent le meurtrier, et que, par des mains impies, ils eurent crucifié le Seigneur de vie qui était dans l'esprit meurtrier, et les convoitises et pompes du monde, Joseph d'Arimathie, un conseiller, un homme bon et juste, qui n'avait pas consenti au dessein. Et Joseph le descendit, l'enveloppa dans un linceul de lin et le déposa dans un sépulcre taillé dans la pierre, où jamais homme n'avait encore été mis. Ainsi vous ne lisez pas ici que Christ eut ne serait-ce qu'un cercueil, comme Joseph, fils de Jacob, en eut un, Genèse 50-26. Ainsi vous voyez quel accueil le Seigneur de gloire reçut lorsqu'il vint dans le monde, une mangeoire au lieu d'un berceau. Et lorsqu'il sortit du monde, l'Écriture ne dit pas qu'il eut ne serait-ce qu'un cercueil. Joseph d'Arimathie enveloppa son corps de lin et le déposa dans un sépulcre, dans un jardin. Et vous pouvez voir dans Jean quel cri s'élevait parmi les Juifs et les prêtres, criant « Crucifie-le, crucifie-le » John 19, 6. Et bien que Nicodème et quelques femmes soient venues et aient apporté de la myrrhe et d'autres aromates, selon la coutume des Juifs pour ensevelir, pourtant, lorsqu'il sortit du monde, il fut enterré par Joseph d'Arimathie, un conseiller, afin d'accomplir l'Écriture qui dit qu'il a fait son tombeau avec les riches. mais elle ne dit pas qu'il eut ne serait-ce qu'un cercueil recouvert d'un drap blanc et noir. Ainsi vous pouvez voir ici que notre Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, à qui toute puissance au ciel et sur la terre a été donnée, ne fut pas porté à son sépulcre dans un cercueil doré, couvert d'un grand drap blanc et noir, avec des armoiries ou des écussons, et beaucoup de prêtres et de gens suivants en vêtements noirs, avec des écharpes noires à leurs chapeaux feignant le deuil, recevant des anneaux d'or, des brins de romarin à la main, et le tintement des cloches, ce qui ressemble davantage. Mais au lieu de cela, Christ eut une troupe de railleurs, oui, les principaux prêtres, les scribes et les anciens se moquaient de lui, disant, « S'il est le Fils de Dieu, qu'il descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il veut de lui, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même, Matt 27, 40-42. Voyez quel blasphème est ici contre Dieu et son Fils de la part des Juifs et des prêtres, qui en parole professent Dieu et le Messie à venir, mais qui, dans leur vie et leurs œuvres, les ont niés tous deux. Car celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Que demeure donc en vous ce que vous avez entendu dès le commencement? Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père, 1 John 2:23-24. Et vous tous qui dites que nous Quakers enterrons les nôtres comme des chiens parce que nous n'avons pas de choses superflues et inutiles sur nos cercueils, ni de drap blanc et noir avec des écussons, et que nous ne nous habillons pas en noir, n'accrochons pas d'écharpe à nos chapeaux, ni d'écharpe blanche sur nos épaules, ne donnons pas d'anneaux d'or, n'avons pas de brins de romarin à la main, et ne faisons pas sonner les cloches. Comment osez-vous dire que nous enterrons les nôtres comme des chiens, parce que nous ne pouvons pas les enterrer selon les vaines pompes et la gloire? Alors que vous ne lisez pas que Christ, le Prince de la vie, notre Seigneur et Sauveur, ait eu aucune de ces choses, ni lorsqu'il est venu dans le monde, ni lorsqu'il en est sorti, et il a refusé la pompe et la gloire du monde lorsque le diable le tenta avec cela. Or vous tous venez apprendre de Christ, qui vous éclairez par la vie qui est en lui, et croyez en elle, afin que vous deveniez enfants de la lumière. Car la grâce et la vérité sont venues par Jésus dans vos cœurs et dans vos parties intérieures, afin que par sa grâce et sa vérité vous puissiez apprendre de Christ qui est doux et humble de cœur et le suivre, lui qui n'est pas de ce monde, entendre sa voix, et il vous conduira dans les pâturages de la vie. Lui qui est venu dans le monde sans aucune pompe, ni convoitise, ni gloire du monde, et qui n'est pas non plus sorti du monde avec la gloire, la pompe ou la convoitise du monde, comme il a été dit plus haut, lui qui n'est pas du monde, lui qui est le Prince de vie et de paix. Ne suivez donc pas les pompes ni la gloire du monde à la venue de vos enfants dans le monde. Ne les élevez pas dans les pompes et la gloire du monde pendant le temps de leur vie, et ne les employez pas lorsqu'ils sortent du monde. Mais suivez Jésus-Christ, qui n'est pas du monde, qui est votre Rédempteur, votre Sauveur, votre chemin, votre vérité et votre vie, votre évêque, votre berger, votre prêtre, votre prophète, et laissez-le régner dans vos cœurs par la foi, lui qui vous donnera la vie en abondance, lui qui est d'en haut et non d'en bas. Amen, amen, dit mon âme. George Fox, une épître à tous les chrétiens, juifs et païens, montrant que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Ainsi dit le Seigneur, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied, où est la maison que vous me bâtirez, et où est le lieu de mon repos, c'est ce que le Seigneur dit aux Juifs qui construisaient le temple. Isaïe 66:1. Et Salomon dit, le ciel des cieux ne peut contenir Dieu, à plus forte raison la maison qu'il a bâtie, 1 Kings 8:27, 2 Chr 6:18. Et encore, Étienne dit au grand prêtre des Juifs, lorsqu'il l'interrogeait, « Bien que Salomon ait bâti une maison au Seigneur, cependant le trésor n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, car le ciel est le trône de Dieu, et la terre son marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses, vous, gens aux cou raides et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères firent, vous le faites aussi. » Or ici, tous peuvent voir que ce sont ceux aux cou raides et incirconcis de cœur et d'oreille qui étaient les persécuteurs, comme dans le verset suivant, qui résistaient au Saint-Esprit, et par conséquent leur corps, dans cet état, n'était pas susceptible d'être des temples du Saint-Esprit, comme en 1 Cor 6:19. Et de ce fait, ces persécuteurs qui résistaient au Saint-Esprit, qui procèdent du Père et du Fils, étaient ceux qui s'élevaient pour le temple extérieur. Ils n'étaient pas en état de voir Dieu, comme Étienne le vit, lui qui n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, le ciel étant son trône et la terre son marchepied, eux résistaient à son Saint-Esprit qui procède de lui, par lequel Dieu est vu et connu. Et l'apôtre Paul dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, et il a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes pour habiter sur la face de la terre. Afin qu'il cherche le Seigneur, et qu'il puisse peut-être le tâtonner et le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. » Actes 17, 24-28. Ainsi vous pouvez voir, Voici de nombreux témoins mentionnés ci-dessus que Dieu, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, et qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais, comme le disent les prophètes, Christ et les apôtres, le ciel est le trône de Dieu, et la terre son marchepied. Matthieu 5, 34-35. Que tous viennent à connaître Dieu, lui qui d'un même sang a fait toutes les nations des hommes pour qu'elles habitent sur la face de la terre. Il vous donne à tous la vie et le souffle, et toutes choses, je dis, que tous le connaissent par son esprit qu'il répand sur toute chair, le ciel étant son trône et la terre son marchepied. Oui, que tout ce qui habite sur la face de la terre sache que la terre sur laquelle vous demeurez et marchez est le marchepied de Dieu, et que le ciel est son trône, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, qui vous donne souffle. Afin que par son esprit, vous puissiez savoir que le jour dont Joël a parlé est venu, et que par son esprit, vous puissiez tous savoir que Dieu a répandu son esprit sur vous, ou en vous, afin que par lui vous viviez en Dieu, vous vous mouviez en Dieu et vous ayez votre être en Dieu, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, et le ciel est son trône, et la terre son marchepied, sur la face de laquelle vous demeurez et marchez. Ainsi que tous voient et sachent que vous êtes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux, je marcherai en eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, 16, les 26, 12. Et ainsi parla le Seigneur, qui n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais les saints qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les temples de Dieu et du Saint-Esprit, car le Seigneur a dit, les enfants d'Israël et de Juda m'ont provoqué à la colère par les œuvres de leurs mains. Le Seigneur a dit, car cette ville, Jérusalem et le temple m'a été un sujet de provocation de ma colère et de ma fureur, depuis le jour où ils l'ont bâti jusqu'à ce jour, Jérusalem et le temple, au point que je la retire de devant ma face, dit le Seigneur, et que je la détruise, Jère 32-30-31. Ainsi, vous pouvez voir ici que ceux qui résistaient au Saint-Esprit exaltaient la Jérusalem extérieure et le temple extérieur. C'étaient des persécuteurs aux coups raides, incirconcis de cœur et d'oreille, comme vous pouvez le voir au temps des prophètes, au temps d'Ésaïe et au temps du Christ, d'Étienne et de l'apôtre Paul. Et ces incirconcis de cœur et d'oreille, ces persécuteurs qui ont résisté et qui résistent encore aujourd'hui au Saint-Esprit, exaltent des temples extérieurs et de nos jours emprisonnent, persécutent et saisissent les biens des gens, parce qu'ils ne. Et bien que le Seigneur leur dise, par son prophète, et Étienne, et ses apôtres, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais le ciel est son trône et la terre son marchepied, et il est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il dit de son peuple en ces termes, « Quoi, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous tenez de Dieu ? Et encore, car vous êtes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux, je marcherai en eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Dieu Tout-Puissant. » Jère 31-33. Et donc, vous tous qui recevez le Saint-Esprit, sachez que vos corps sont les temples du Dieu vivant, et que le Saint-Esprit et que le ciel est le trône de Dieu, et la terre son marchepied, et que vous demeurez et marchez sur son marchepied, et que vous vivez où vous mouvez et vous avez votre être éternel en Dieu, qui n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais Dieu habite et marche en vous son temple, et il est votre Dieu et votre Père, et vous êtes son peuple, et les fils et les filles de Dieu Tout-Puissant. Ainsi chacun peut dire en vérité, je vis, je me meus et j'ai mon être en Dieu, le ciel est son trône, et la terre son marchepied sur lequel je demeure et marche naturellement. Et spirituellement en Dieu je vis, je me meus et j'ai mon être à sa louange et à sa gloire, lui qui est Seigneur de tout, au ciel et sur la terre, d'éternité en éternité, béni et loué à jamais. Amen. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en vous tous. F4-6. Que tous les peuples sages témoignent en voyant que Dieu le Père est ainsi. George Fox le 4 jour du 7 mois, 1682 est tiré du journal de George Fox. Comme j'allais vers Nottingham un premier jour au matin, avec des amis pour une réunion là-bas, lorsque j'arrivais au sommet d'une colline d'où l'on voyait la ville, j'aperçus la grande église à clocher, et le Seigneur me dit, « Tu dois aller crier contre ce grand idole lointain astérisque et contre les adorateurs à l'intérieur. » Je ne dis rien de cela aux amis, mais allez avec eux à la réunion, où la puissante puissance du Seigneur Dieu était au milieu de nous. Et là, laissant les amis assis à la réunion, je me rendis à l'église à clocher. Astérisque le Seigneur a désigné le bâtiment d'église, la steeplehouse, maison à clocher, comme un grand idole. Un idole est quelque chose que les gens vénèrent, quelque chose dont ils tirent orgueil, quelque chose qu'ils adorent. Le temple de Jérusalem fut le seul temple que Dieu ait jamais voulu ou commandé. Les bâtiments d'église, cathédrales et autres monuments à l'orgueil de l'homme ne sont pas désirés par Dieu et sont méprisables à ses yeux, car le trésor n'habite pas dans des maisons et des temples faits de mains d'hommes. Actes 7, 48-9. Il souhaite habiter en vous avec le Christ dans son royaume glorieux, après que vous ayez été purifiés. Quand j'y arrivais, tout le peuple ressemblait à une terre en friche, et le prêtre, tel une grosse motte de terre, se tenait dans sa chair au-dessus. Il prit pour texte ces paroles de Pierre, « Nous avons aussi une parole prophétique plus certaine, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il dit au peuple que c'étaient là les Écritures par lesquelles ils devaient éprouver toutes doctrines, religions et opinions. Or la puissance du Seigneur était si puissante sur moi, et si forte en moi, que je ne pus me contenir, mais je fus amené à crier. Oh. Non, ce ne sont pas les Écritures, et je leur dis ce que c'était, à savoir le Saint-Esprit, par lequel les saints hommes de Dieu ont donné les Écritures, et par lequel les opinions, les religions et les jugements devaient être éprouvés, car il conduit dans toute la vérité et donne ainsi la connaissance de toute la vérité. Car les Juifs avaient les Écritures, et pourtant ils résistèrent au Saint-Esprit, rejetèrent le Christ, la brillante étoile du matin, persécutèrent le Christ et ses apôtres, et prétendirent éprouver leur doctrine par les Écritures, mais ils se trompèrent dans leur jugement et ne les éprouvèrent pas correctement, parce qu'ils les éprouvaient sans le Saint-Esprit. Concernant la persécution, à tous les âges jusqu'à ce jour. Comment celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'Esprit, et il en est de même maintenant, oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution, 2 Tim 3, 12. Notez, tous ceux qui veulent vivre pieusement, non pas ceux qui veulent vivre impie hors de Jésus-Christ. Car il vous a été donné, pour l'amour du Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, Phil 1, 29. Par George Fox, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et cohéritiers avec le Christ. Et si tel est le cas, nous devons souffrir avec le Christ afin d'être aussi glorifiés ensemble, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ, sera-ce la tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Comme il est écrit, à cause du Christ, nous sommes mis à mort tout le jour, nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie, non, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, par le Christ qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Voici la noble résolution qui était doit être celle des vrais et fidèles chrétiens en Jésus-Christ, et comme l'apôtre l'a dit aux Corinthiens, nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes, etc. Et nous sommes regardés comme fous à cause du Christ, nous sommes frappés, et nous n'avons pas de demeure certaine, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous l'endurons, diffamés, nous supplions. Nous sommes devenus comme l'ordure du monde et comme le rebut de toutes choses, mais le Seigneur nous console dans toutes nos tribulations, car comme les souffrances du Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde aussi par le Christ, 1 Cor 4, 8, 18, 2 Cor 1, 4, 5. Et ainsi ce n'est rien de nouveau pour les chrétiens d'aujourd'hui d'être pressés de toutes parts, sans être écrasés, perplexes mais non désespérés, car nos légères afflictions, qui ne durent qu'un moment, produisent pour nous un poids de gloire infiniment excellent et éternel, et si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Béni soit le Seigneur à jamais. Et comme l'apôtre l'a dit, je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour l'amour du Christ. Et ici l'apôtre triomphait de tout, ce qui devrait être la pratique de tout vrai chrétien. Et vous pouvez lire comment Paul dit, « J'ai persécuté à l'excès l'Église de Dieu et je la ravageais, mais lorsqu'il fut converti et devint membre de l'Église du Christ, alors il prêcha la foi qu'il cherchait à détruire. Ainsi vous pouvez voir, comme il est écrit, « Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit, et il en est de même maintenant. » Ainsi, quoique la chrétienté professe et raconte, il faut considérer la naissance, de quelle naissance vous êtes. Si c'est la naissance de la chair, elle persécutera celui qui est né selon l'esprit, les vrais croyants en Christ, car il vous a été donné pour l'amour du Christ non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ainsi, ce don n'est pas seulement de croire, mais aussi de souffrir pour lui, et de regarder toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus. Pour lui j'ai souffert la perte de toutes choses et je les regarde comme des ordures afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, afin de le connaître lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. À cela tous devraient veiller, être rendus conformes et connaître la communion de ses souffrances, et l'apôtre encourage les Thessalonians disant, « Nous-mêmes, nous nous glorifions de vous. À cause de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions et tribulations que vous supportez, ce qui est un témoignage manifeste des justes jugements de Dieu, afin que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi, puisqu'il est juste de la part de Dieu de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent, et à vous qui êtes troublés, le repos avec nous, dit l'apôtre. C'est pourquoi, frères, nous sommes consolés à votre sujet dans toutes nos afflictions et détresses à cause de votre foi. Tenez ferme dans le Seigneur, afin que personne ne soit ébranlé par ses afflictions, car vous savez vous-même que nous y sommes destinés, dit l'apôtre, car nous vous avons dit d'avance que nous aurions à souffrir des tribulations, comme cela est arrivé. Car le Christ a souffert, et ayant été tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés dans toutes leurs souffrances. Et bien qu'il fût fils, il apprit l'obéissance par les choses qu'il souffrit, et ayant été rendu parfait, il devint l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, et ainsi, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Et souvenez-vous de ceux qui sont dans les liens, comme liés avec eux, et de ceux qui souffrent l'adversité, comme étant vous-mêmes aussi dans le corps, dans les liens. Voici une perception sensible les uns des autres, chez ceux qui sont nés de l'esprit, et une communion dans les souffrances, eux qui sont persécutés par cet esprit né de la chair. Et l'apôtre dit aux Hébreux, « Rappelez-vous les premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, tantôt exposés en spectacle par les insultes et les afflictions, tantôt devenus les compagnons de ceux qui étaient ainsi traités, car vous avez eu compassion de moi dans mes liens, et vous avez accepté avec joie le pillage de vos biens, sachant en vous-même que vous possédez dans les cieux un bien meilleur et durable. » N'abandonnez donc pas votre assurance, qui a une grande récompense, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. Mais si quelqu'un se retire à savoir, au temps des souffrances, l'âme du Seigneur ne prend pas plaisir en lui. Moïse, par la foi, choisit plutôt de souffrir avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des plaisirs du péché, estimant que l'opprobre du Christ était une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux sur la rétribution. Et par la foi il quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il persévéra comme voyant celui qui est invisible. Et vous pouvez voir quelles cruelles épreuves de moquerie, de fouet, de liens et d'emprisonnement, d'affliction et de tourments, les saints ont traversé en ébonze. Et Pierre dit 1 Pie 2:20-21, « Si, lorsque vous faites le bien et que vous souffrez pour cela, vous le supportez avec patience, c'est agréable à Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Si quelqu'un, par motif de conscience envers Dieu, endure des peines, cela mérite reconnaissance parce que le Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Lui qui, lorsqu'on l'injuriait, ne rendait pas l'injure, quand il souffrait, il ne menaçait pas mais s'en remettait à Dieu qui juge justement, car le Christ a souffert une fois pour le péché, le juste souffrant pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Puisque donc, le Christ a souffert pour nous dans la chair, armez-vous aussi de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle, dit l'apôtre par Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra parfait, vous affermira, vous fortifiera et vous établira. Remettez à Dieu tous vos soucis, car il prend soin de vous, et réjouissez-vous, en tant que vous avez part aux souffrances du Christ. Et ne trouvez pas étrange l'épreuve de feu qui doit vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Car si vous êtes outragés et souffrez pour le nom du Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur vous, de leur côté, il est blasphémé, mais de votre côté, il est glorifié. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Que ce donc qui souffre selon la volonté de Dieu lui confie la garde de leurs âmes en faisant le bien, comme un Créateur fidèle, et si vous souffrez pour la justice, heureux êtes-vous. Et ne craignez pas leurs menaces, et ne soyez pas troublés, ayant une bonne conscience, afin que la même où ils disent du mal de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils aient honte d'accuser faussement votre bonne conduite. Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, souffrir pour avoir fait le bien que pour avoir fait le mal. Car nous travaillons et nous souffrons l'opprobre parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout de ceux qui croient. Et l'apôtre dit, il a été établi docteur des nations, et c'est pour cela qu'il souffre aussi. Mais il n'en avait pas honte, car il savait en qui il avait cru. Et il dit, bien qu'il souffrit comme un malfaiteur jusque dans les liens, la parole de Dieu n'est pas liée. Non, la parole éternelle de Dieu, qui vit, demeure et subsiste à jamais, par laquelle toutes choses ont été faites et créées, cette parole de Dieu ne peut être liée par ce qui a été créé par elle et qui ne vit ni ne subsiste à jamais. C'est pourquoi, dit l'apôtre, j'endure. C'est une parole certaine, si nous sommes morts avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui, et si nous souffrons avec le Christ, nous régnerons aussi avec lui, et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et vous pouvez voir quelles persécutions et afflictions vinrent sur l'apôtre à Antioche, à Iconium et à Lystre, quelles persécutions il endura, mais de toutes, le Seigneur le délivra, oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. Notez, souffriront s'ils vivent pieusement. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de pire en pire, séduisant et étant séduits, c'est pourquoi il exhorte Timothée à veiller en toutes choses et à endurer les afflictions. Car il était prêt à être offert en sacrifice, le temps de son départ était proche, il avait combattu le bon combat, achevé sa course et gardé la foi, et une couronne de justice lui était réservée que le Seigneur, le juste juge, lui donnera en ce dernier jour, et non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens. C'est pourquoi l'apôtre dit à Timothée, « N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais prends ta part des souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel. » Et Jean dit citant Jésus, « Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, ne crains rien de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Cela fut adressé à l'église de Smyrne. Et vous pouvez voir dans Apocalypse 11 comment les témoins du Christ souffrirent, et lorsque leur vie fut ôtée et que leurs cadavres gisaient dans les rues de la grande ville, qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte et non pas naturellement appelée ainsi, là où Christ notre Seigneur et Sauveur fut crucifié, c'étaient les grands professeurs de la lettre, les Juifs, avant que le témoin ne fût tué. Mais après 3 jours et demi, l'Esprit de vie venant de Dieu entra dans les témoins, et ils se tinrent sur leurs pieds, ce qui effraya leurs ennemis. Et encore, vous pouvez voir comment le dragon persécuta la femme, la vraie Église qui enfanta l'enfant mâle, après avoir été jetée hors du ciel par Michel et ses anges. Mais la femme ou la vraie Église fut nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps dans le désert, et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche derrière elle. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements. À présent, vous pouvez voir comment le diable, le dragon et tous ses partisans persécutent, et contre quoi s'exerce sa fureur, contre la vraie Église, la femme qui enfanta l'enfant mâle, et contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Et ensuite le dragon donna sa puissance méchante et persécutrice à la bête, qui devait aussi continuer 42 mois, et il s'éleva dans une telle rage par la puissance du diable qu'il ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent au ciel, non pas ceux qui habitent sur la terre, car tous ceux qui habitent sur la terre l'adorent, mais ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde, à savoir, cela ne l'adore pas. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Mais qu'est-il advenu de la grande ville, et de la prostituée, ou de la fausse église, et de la bête, et du dragon, avec tous ces faux prophètes? Ne sont-ils pas, à la fin, brûlés et jetés dans les temps de feu? Et l'agneau et les saints n'ont-ils pas la victoire? Et David déclare comment il fut persécuté, et dit, « Qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui en veulent à mon âme, qu'ils soient comme la balle devant le vent. Que leur chemin soit ténèbre et glissant, de faux témoins se lèvent et m'accusent de choses que j'ignorais, il lui rendait le mal pour le bien, au dépouillement de son âme, et ses adversaires s'assemblèrent contre lui, avec des railleries hypocrites dans les festins, ils grincent des dents contre moi, oui, ils ouvrent grande leur bouche contre moi et disent « Ah ah !» Mais Dieu sauvera son peuple affligé et abattra les regards hautains de ceux qui les affligent. Psaume 18, 27. Et David se lamentait à cause de l'affliction, et dit « Je suis affligé, prêt à mourir dès ma jeunesse. » Et dit, « Seigneur, souviens-toi de David dans toutes ses afflictions. » Et il dit, « Le méchant dans son orgueil persécute le pauvre, mettant son dans ta main. Ô Seigneur, délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. » Et David cria aussi au Seigneur et dit, « Combien de jours aura ton serviteur? Exécuteras-tu le jugement contre ceux qui me persécutent? Ils me persécutent injustement, aide-moi, les orgueilleux m'ont creusé une fosse, eux qui ne suivent pas ta loi et ceux qui font ainsi maintenant ne suivent pas ton évangile. » Et David dit, « Ô Seigneur mon Dieu, en toi je me confie, sauve-moi et délivre-moi de tous ceux qui me persécutent, car le Seigneur entend le pauvre et ne méprise pas ses prisonniers, que le ciel et la terre le louent, la mer et tout ce qui s'y meut. » Et David dit, « Ceux qui siégeaient à la porte parlaient contre moi, et j'étais la chanson des ivrognes, et les ivrognes ne font-ils pas aujourd'hui des chansons au sujet du peuple de Dieu? Pensez à tous les abus ci-dessus dont David se plaint et réalisez qu'il était roi, avec le pouvoir d'exécuter quiconque l'aurait maltraité comme il le décrit. Par conséquent, David parle des démons qui le persécutent, que Dieu permet de persécuter ses élus afin qu'il en finisse avec le péché, tout comme Dieu permit à Satan de persécuter cruellement Job, détruisant sa maison et ses enfants, tout son bétail, et le couvrant de la tête aux pieds d'ulcères. Et vous pouvez voir les souffrances et afflictions de Job par les Chaldéens et les Sabéens, et les épreuves et tentations de sa femme et de ses prétendus amis. Et aussi il dit dans ses afflictions, « Ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi, dont j'aurais dédaigné de faire asseoir les pères avec les chiens de mes troupeaux, enfants d'insensés, enfants d'hommes vils, maintenant je suis leur chanson, oui, je suis leur proverbe, ils montent en horreur, etc. Et n'épargne pas de me cracher au visage, à ma droite se lève la jeunesse, ils repoussent mes pieds, ils se soulèvent contre moi, et ils gâtent mon sentier et avancent mon malheur. Mais vous pouvez voir comment le Seigneur délivra Job de toutes ses afflictions et misères, car ce furent toujours les méchants qui maltraitèrent les justes dans leurs souffrances et afflictions. » Et Jérémie dit, « Ô Seigneur, ma force, ma forteresse et mon refuge au jour de l'affliction, le Seigneur est la forteresse, le refuge et la force de tout son peuple au jour de leurs afflictions et persécutions, Et le Seigneur n'a-t-il pas confondu tous les persécuteurs de Jérémie? Jérémie n'a-t-il pas dit à ses persécuteurs, « Le Seigneur est avec moi comme un puissant terrible, c'est pourquoi mes persécuteurs chancelleront et ne prévaudront pas, ils seront grandement confus, car ils ne prospéreront pas, et leur confusion éternelle ne sera jamais oubliée. » Jer 20, 11. Et cela ne vint-il pas sur les persécuteurs qui mirent Jérémie en prison et dans un cachot? Jérémie ne fut-il pas délivré, et ses persécuteurs partirent en captivité, et lui fut mis en liberté, sorti de sa prison. Vous pouvez voir ce qu'il advint de ses persécuteurs, s'ils ne partirent pas en captivité et en prison. Et Ésaïe, parlant prophétiquement du Christ, dit comment il fut opprimé et affligé, et pourtant il n'ouvrit pas la bouche, ne fut-il pas mené comme un agneau chez Pilate et à l'abattage des Juifs, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Et il fut enlevé de la prison et du jugement, qui déclarera la génération de l'agneau souffrant, immolé dès la fondation du monde, frappé pour la transgression de son peuple. Les frappeurs, les oppresseurs, les opposants, les geôliers, les contempteurs et les rejeteurs ne peuvent déclarer la génération du Christ, l'agneau de Dieu. Et Ésaïe dit, « Si tu dénoues les liens de la méchanceté pour délier les lourds fardeaux et renvoyer libres les opprimés, etc. Si tu donnes ta vie à celui qui a faim et rassasie l'âme affligée, alors ta lumière se lèvera dans l'obscurité. Mais qu'adviendra-t-il de ceux qui oppriment, imposant leurs fardeaux et affligent le juste, leur lumière sera ténèbres. » Et le Seigneur dit, parlant des enfants d'Israël, « Dans toutes leurs afflictions, il fut affligé, et l'ange de sa présence les sauva, Yécut 63:9. Dans son amour et dans sa compassion, il les racheta, il les porta et les soutint tous les jours d'autrefois, et Dieu dit, « J'enverrai mon ange devant toi pour te garder en chemin, Exode 23:20. » Et lorsque les enfants d'Israël crièrent au Seigneur, il entendit leur voix et les délivra de leurs persécuteurs et de leurs afflictions. Et le Seigneur dit, « J'ai certainement vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses maîtres de corvée, car je connais ses douleurs. » Ainsi vous pouvez voir que le Seigneur entend leurs cris et est sensible aux afflictions et aux douleurs de son peuple. C'est pourquoi il commande à son peuple de ne pas affliger la veuve, ni l'orphelin, ni l'étranger, car s'il le faisait, il crierait au Seigneur, et il rendrait leurs femmes veuves et leurs enfants orphelins. Et Amokria, malheur à ceux qui chantent au son de la viole et s'inventent des instruments de musique comme David, qui boivent le vin dans des coupes et soignent les meilleurs parfums, mais ne s'attristent pas des afflictions de Joseph. Car je connais vos nombreuses transgressions et vos grands péchés, ils affligent le juste, et c'est cela qui afflige le juste en notre âge, et ils ne sont pas sensibles aux afflictions de Joseph, ni aux afflictions des justes en notre âge. Et le Christ dit, « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit bien qu'ils usent de patience à leur égard ? Et le Christ ne dit-il pas aux Juifs, comment ils avaient tué et persécuté les prophètes ? Et il dit qu'il persécuterait ses apôtres et ses prophètes, et qu'est-il advenu de ces Juifs persécuteurs? Et le Christ dit à ses disciples, « On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera au conseil, on vous fouettera dans les synagogues, on vous jettera en prison, vous serez conduits devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom, et cela tournera pour vous en témoignage. Fixez donc dans vos cœurs de ne pas méditer d'avance ce que vous aurez à répondre, car je vous donnerai une bouche et une sagesse, dit le Christ, auxquels tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Il est donc bon que tous regardent à Jésus, tant pour la sagesse que pour la force dans toutes leurs épreuves, souffrances et persécutions, car sans lui ils ne peuvent rien faire. » Et le Christ dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, heureux êtes-vous quand les hommes vous outrageront et vous persécuteront, et diront faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Et le Christ dit à ses disciples, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas parcouru toutes les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Mais lorsqu'on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz, car il vous sera donné, à cette même heure, ce que vous aurez à dire, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit du Père qui parle en vous. » Et encore, le Christ dit aux Juifs, « Voici, je vous envoie des prophètes et des sages, et vous tuerez et crucifierez certains d'entre eux, et vous en fouetterez certains dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang juste répandu sur la terre. » Et vous pouvez aussi voir comment Jean-Baptiste fut jeté en prison pour avoir repris Hérode, et la fille de la femme d'Hérode plut à Hérode par sa danse, et Hérode promit par serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait, et sa mère lui conseilla de demander la tête de Jean-Baptiste, et on la lui donna. Or ce fut là le fruit de la transgression de la loi de Dieu, et de sa danse, et des serments, et du fait de jurer, contrairement au commandement du Christ qui a dit « Ne jurez pas du tout ». Et aussi le Christ dit « J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, en prison, et vous n'êtes pas venu à moi, j'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, malade, et vous ne m'avez pas visité ». Et le Christ dit « Dans la mesure où vous ne l'avez pas faite à l'un des plus petits de ceux-ci, vous ne l'avez pas faite à moi, et ceux-là iront au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. N'est-ce pas la pratique des docteurs de ces jours, au lieu de vêtir les nus, de leur enlever leurs vêtements ? Et de leur enlever leur nourriture et leur boisson, au lieu de leur donner à manger et à boire, et de les jeter en prison, au lieu de les visiter en prison ? Oui, ceux qui prétendent être des prédicateurs de l'Évangile, bien qu'ils ne les écoutent pas, mais de tels gens transgressent son commandement, lui qui a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Et Achab le roi dit « Prenez Michée le prophète et mettez ce compagnon en prison, et nourrissez-le du pain de l'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit à Achab « Si tu reviens en paix, le Seigneur n'a pas parlé par moi. » Ainsi Achab fut tué, selon la prophétie de Michée. 2 Chron 18-25-27. Et le prophète Hanani ne reprit-il pas Asa le roi ? Et le roi entra dans une grande rage et mit le prophète en prison, parce qu'il avait repris le roi, qui s'appuyait sur le roi d'Assyrie et non sur le Seigneur Dieu. 2 Chron 16-7-10. Et vous pouvez voir dans les actes comment les prêtres et les chefs jetèrent les apôtres en prison et ordonnèrent qu'ils ne prêchent plus au nom de Jésus. Et Étienne dit au souverain sacrificateur et au chef, « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté, et n'ont-ils pas tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, dont vous êtes maintenant les traîtres et les meurtriers, vous qui avez reçu la loi, et ne l'avez pas gardée ?» Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils furent transpercés au cœur, grincèrent des dents contre lui et lapidèrent Étienne à mort, Étienne invoquant Dieu et disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et Paul dit « J'ai persécuté cette voie, qui était la voie du vrai christianisme, jusqu'à la mort, liant et jetant en prison hommes et femmes, le souverain sacrificateur m'en rend témoignage, ainsi que tout le conseil des anciens, de qui j'ai reçu aussi des lettres, et je suis allé à Damas pour amener ceux qui s'y trouvaient liés à Jérusalem afin d'être punis ». Ce fut la confession de Paul lorsqu'il fut converti, et persécuté pour l'amour du Christ, par les anciens juifs persécuteurs et professants. Et Hérode persécuta les chrétiens, tua Jacques et emprisonna Pierre, qu'un ange délivra par les prières des saints, et l'ange de Dieu frappa Hérode, qui mourut misérablement. Et vous pouvez voir, dans le chapitre 16 des Actes, comment Paul et Silas furent jetés en prison, et comment le Seigneur opéra pour eux une merveilleuse délivrance à sa gloire. Et combien de fois vous voyez les Juifs en vouloir à la vie de Paul après sa conversion, et les Romains païens eurent plus de douceur, lui laissant la liberté de demeurer 2 années entières dans sa maison louée, et de recevoir tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus, et personne ne l'en empêchait. Et les Juifs persécutèrent Jésus, parce qu'il avait fait du bien le jour du sabbat, lui qui est Seigneur du sabbat. Et le Christ dit à ses disciples, « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Toutes ces choses, ils vous les feront à cause de mon nom. » Et cette persécution et cet emprisonnement, les apôtres et les saints en vinrent à en rendre témoignage après la résurrection du Christ. C'est pourquoi vous pouvez voir dans les épîtres de Paul qu'il salue ses compagnons de captivité, et l'apôtre dit « Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant, chaque naissance manifeste ses œuvres et ses fruits. » Et l'apôtre dit aux Corinthiens « Ne donnez aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas blâmé. » Mais en toute chose, nous recommandons comme ministres de Dieu, par une grande patience, dans les afflictions, les nécessités, les détresses, les coups, les emprisonnements, les troubles, les travaux, les veilles, les jeûnes, par la pureté, la connaissance, la longanimité, la bonté, le Saint-Esprit, l'amour sincère, par la parole de vérité, la puissance de Dieu, par les armes de justice à droite et à gauche. 2 Cor 6, 3-10. Voilà de bons exemples à suivre pour les vrais chrétiens. Et ne lisez-vous pas ce qu'il advint de Jézabel, cette persécutrice des prophètes du Seigneur. Et qu'est-il advenu de tous les persécuteurs du peuple de Dieu depuis le commencement ? Cette naissance née selon la chair n'aura-t-elle pas la même part jusqu'à la fin du monde ? N'est-il pas consigné que c'est la naissance de la chair, et qu'elle n'héritera pas avec l'héritier de la promesse, mais qu'elle est exclue de cet héritage ? George Fox, Londres, le 8 mois, 1682. Une manière d'empêcher l'indignation et les jugements de Dieu de s'abattre sur un royaume, une nation ou une famille. Recommandez aux consciences de tous ceux qui sont concernés. Premièrement, vous tous, marchands de vin qui vendez du vin, qui tenez des tavernes ou maisons semblables, et vous tous, aubergistes, et vous qui tenez des restaurants, débits de bière, pubs, etc. Veillez à ne jamais laisser aucun homme ni aucune femme prendre plus de vin, de bière, de boissons fortes, d'eau de vie, ou d'alcool fort, ou d'autres liqueurs fortes, que ce qui est bon pour leur santé et leur bien, afin qu'ils puissent louer Dieu pour ces bonnes créatures. Car toute créature de Dieu est bonne et doit être reçue avec action de grâce. Mais si vous donnez ou laissez les hommes ou les femmes prendre tant de vin, d'eau de vie, de liqueurs fortes, de bières fortes ou d'ale, jusqu'à ce qu'ils soient ivres, ou pour les rendre ivres, vous détruisez les bonnes créatures de Dieu. Vous détruisez ceux qui n'ont pas plus de pouvoir sur leur convoitise qu'un rat ou un porc, qui boiront jusqu'à être ivres. Vous êtes une grande cause de la ruine de leur santé, de leurs finances et de leurs biens, leurs enfants et leurs familles, en alimentant leur convoitise, en leur laissant avoir plus que ce qui leur fait du bien, ce qui tente aussi à attirer sur vous les jugements de Dieu, pour votre propre ruine et destruction. Car beaucoup, lorsqu'ils sont pleins de vin, de bière ou de spiritueux, se mettent alors à réclamer de la musique, la flûte et la harpe, et peut-être aussi leurs prostituées. Et ainsi, en cela, vous qui permettez de telles choses, êtes des nourrices de la débauche et des corrupteurs d'eux-mêmes, et aussi de vos propres familles. Et aussi de tels hommes, lorsqu'ils sont pleins de vin ou de spiritueux, et qu'ils ont détruit les créatures en prenant plus que ce qui leur fait du bien, montent alors à un tel degré qu'ils sont prêts à se crêler et à maltraiter, ou à se tuer ou se détruire les uns les autres, et parfois à tuer d'autres personnes qui ne leur font aucun mal, tandis qu'elles marchent ou voyagent dans les rues ou sur les routes. Car lorsqu'ils sont vaincus par les spiritueux, alors ils sont disposés et exposés à toutes sortes de méchancetés. Et bien que vous pensiez qu'en vendant, ou en laissant les gens avoir, du vin ou des spiritueuses au-delà de ce qui leur fait du bien, ou de ce qui est pour leur santé, plus ils boivent, plus vous croyez que cela vous rapporte, et plus vous écoulez vos marchandises, plus vous faites de profit, ah pauvres vendeurs. Ne pensez-vous pas que Dieu, de son œil qui voit tout, vous observe, vous et vos actions? Et le Seigneur ne peut-il pas bientôt envoyer une calamité sur toutes vos entreprises, et sur ses gains et profits impies, et sur tout ce que vous avez acquis par votre convoitie et par les convoitises des autres, par lesquels ils détruisent leurs biens, leurs enfants et leurs familles? Cela ne fera-t-il pas venir la destruction sur vous et sur vos gains injustes, que vous avez obtenus en nourrissant leurs convoitises? Car l'esprit qui nourrit les convoitises destructrices doit nécessairement être le destructeur, et les profits de cela ne seront pas, à la fin, un gain pour vous. Car n'êtes-vous pas sensible au fait que beaucoup, après avoir dépensé leurs biens, ou une partie d'entre eux, s'endettent chez vous pour du vin ou des spiritueux, oui, tels que vous leur laissez avoir plus que ce qui leur faisait ou leur fait du bien, et n'est-ce pas là la cause pour laquelle beaucoup font faillite par le crédit, et d'autres manières comme il a été mentionné plus haut? Le crédit doit être accordé à ce qui est digne de confiance, ce qui ne gaspille ni ne détruit, et Dieu bénira cela. Et donc prenez garde de laisser à tout homme ou femme plus de vin ou de spiritueux que ce qui est pour leur nourriture, leur santé et leur bien. Voyez quel terrible malheur le Seigneur a prononcé contre ceux qui se lèvent de bon matin pour courir après les boissons fortes, qui s'y attardent jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que le vin les enflamme. Alors ils réclament la harpe et la viole, le tambourin et la flûte, etc. Mais ceux-là n'ont aucun égard pour l'œuvre du Seigneur et ne considèrent pas l'action de ses mains. Triste état, malheur à ceux qui sont puissants pour boire du vin, et aux hommes forts pour mêler les boissons fortes. C'est pourquoi tous doivent fuir de telles choses, tous doivent être sobres, éveillés et craindre Dieu, afin d'échapper à ces malheurs, comme vous pouvez le voir dans Ésaïe chapitre 5. Et donc que tous les marchands de vin, et ceux qui vendent du vin avec les débits de bière aux bergers et restaurants, qui vendent de la bière, de l'eau de vie et des spiritueux, ne laissent jamais à quiconque plus que ce qui lui fait du bien et qui est pour sa santé, comme il a été dit plus haut, afin que tous puissent manger et boire les bonnes créatures de Dieu à sa louange et à sa gloire. Ce que les ivrognes et les gloutons ne peuvent faire, pas plus que ce qui leur laisse les créatures de Dieu en excès, ou immodérément jusqu'à ce qu'ils soient ivres et repus, car de Deuxièmement, que tous ceux qui portent le nom de famille chrétienne élèvent leurs enfants dans la crainte de Dieu, et se maintiennent eux-mêmes dans la crainte de Dieu, afin de pouvoir maintenir tous leurs serviteurs et leurs familles dans la crainte de Dieu, loin de tout relâchement et de toute lubricité des vanités et des excès, et de toute ivrognerie, fornication, prostitution ou impureté, et injustice et toute impiété, afin qu'ils se tiennent à l'écart de toutes ces choses qui déplaient ou déshonorent le Seigneur Dieu. Et ne nourrissez pas la convoitise des yeux, ni l'orgueil de la vie, ni la convoitise de la chair, car si vous le faites, vous nourrissez ce qui ne vient pas de Dieu le Père. Et donc, fuir tous ces maux sans détourner, et demeurer dans la crainte de Dieu. C'est là le chemin pour attirer la bénédiction de Dieu sur un pays, un royaume, une nation ou une famille. George Fox, Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Apponce 18, l'ivrognerie rend l'homme pire qu'une bête et rend un homme fort faible et un homme sage fou. Ce témoignage et cet avertissement ont été, et sont approuvées et signées par de nombreux marchands de vin et d'autres concernés par les métiers et occupations mentionnés ci-dessus, qui étaient présents lors de la lecture du manuscrit. Livre de doctrine 6, suite retour à l'index de doctrine. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.